France Inter.
Ancien de l'administration des douanes, Bernard Minier est l'auteur de 13 romans noirs traduits dans 28 langues, tous publiés aux éditions IXO. Il a vendu 6,6 millions de livres en France et 1,5 million à l'étranger, reçu de multiples prix, vu son premier polar glacé adapté en série télé comme devrait l'être bientôt en Espagne. La série Lucia. Lucia Guerrero est l'enquêtrice héroïne de deux livres, tandis que le commandant de police judiciaire Martin Servaz apparaît dans 9 romans, dont le dernier, H, dans lequel il traque de nouveau sans relâche le célèbre tueur en série Julian Hirtman. L'auteur de N'éteins pas la lumière, La Vallée, Un œil dans la nuit ou encore Une putain d'histoire se livre plus personnellement dans l'ouvrage Vallée secrète, entretien avec Fabrice Lardreau, paru chez Artaud. Il a également publié un recueil de nouvelles flirtant avec le fantastique, inspiré par son amour de Poe, Lovecraft et Conan Doyle, intitulé Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Recueil qui a été sélectionné sur la liste du prix Goncourt pour les nouvelles. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Bernard Minier.
Bonsoir, 6,6, quelle précision. Mais oui. Moi, je le savais pas.
C'est vrai?
Ouais, bon, vous aurez 6,5, quoi, à peu près, grosso modo.
c'est proche de la vérité.
Oui, j'imagine.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, je rentre d'Espagne. J'y ai passé une semaine, j'ai été à Barcelone, à Saragosse, à La Corogne, à Pontevedra, à Madrid. Et c'est les villes espagnoles, quoi. C'est la vie espagnole, c'est l'ambiance, c'est la fête, c'est la Feria du Livre de Madrid aussi. C'est un gigantesque événement.
C'est ce que vous avez choisi de faire découvrir aux auditeurs, justement.
Oui, c'est ça.
Alors je vous laisse en parler.
Oui. Ben oui, parce qu'en fait, j'avais dans l'idée avec cette nouvelle série Lucia de faire précisément découvrir des villes d'Espagne à mes lecteurs français, parce qu'ils sont d'abord français, même si je suis pas mal traduit, mais pas les villes d'Espagne que tout le monde connaît, enfin je veux dire, qui sont les plus touristiques. Je sais pas, j'allais pas les envoyer, mes lecteurs, à Barcelone. Alors déjà à Barcelone, quand on se livre une pierre, il y a un auteur de roman noir dessous, donc voilà, c'est pas, on va éviter. C'est un peu comme New York ou Los Angeles pour les Américains, quoi. Pas non plus à Tolède ou à Grenade ou à Séville. Donc dans le premier Lucia, je les ai envoyés à Salamanque, à Ségovie, et puis dans le Alto Aragon, le nord de l'Aragon, qui est un endroit quand même assez peu connu. Et là, dans le nouvel opus Les Effacés, qui vient d'être traduit en Espagne, je les envoie en Galice. Évidemment, il y a les touristes en Galice, mais il y en a moins peut-être qu'à Grenade.
Ça vient d'où cet amour pour l'Espagne? Parce que je sais que vers l'âge de 20 ans, vous avez passé une année ou un peu plus de sexe, drogue et de rock'n'roll, ce sont vos mots, en Espagne.
J'ai dit ça?
Oui.
D'accord. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, mais enfin, je vais en Espagne depuis l'âge de 14 ans. 14-15 ans, donc ça a vu, étant donné mon âge, ça coïncide à peu près avec la mort de Franco. Donc moi j'ai assisté à la transition démocratique, j'ai vu passer les gouvernements, j'ai eu 20 ans pendant la Movida, qui est cet extraordinaire événement, cette révolution culturelle, musicale, artistique, qui a secoué l'Espagne au début des années 1980. Moi j'ai vécu ça de l'intérieur à 20 ans, autant vous dire que c'est quand même de beaux souvenirs. Et puis après, j'ai vu passer les gouvernements, j'ai vu les évolutions culturelles, les évolutions économiques, les évolutions politiques depuis donc la transition démocratique jusqu'à nos jours. Donc c'est un pays que je connais très très bien, quoi, que je me sens assez légitime pour en parler.
Est-ce que, parce que vous voyagez souvent pour vos livres et on se trouve dans différentes zones géographiques dans votre œuvre, est-ce que vous prenez des notes ou est-ce que vous avez une très bonne mémoire?
Alors j'ai une assez bonne mémoire, mais je prends quand même beaucoup, beaucoup de notes. Hein. Oui, je prends des notes, j'ai des carnets pleins, j'ai des piles de carnets chez moi, je les conserve. Je fais des dessins aussi, je fais des croquis, je prends évidemment des centaines ou peut-être des milliers de photos avec mon téléphone, c'est tellement facile. J'ai un petit côté cinéaste, c'est-à-dire que je fais des repérages, quoi. Je vais sur les lieux, je me dis ça colle, ça colle pas, non ça sera pas là, ah ça c'est extraordinaire, puis évidemment il y a plein de surprises. Moi je me rappelle quand Pier Paolo Pasolini cherchait les lieux, les décors pour le tournage de l'Évangile selon Matthieu, Il est parti en Israël, mais alors l'Israël c'est un pays ultra moderne, il y a des constructions partout, donc il n'arrivait pas à trouver le décor biblique qu'il recherchait. Finalement il l'a trouvé à Matera, en Italie même, et bah, moi je fais ça tout le temps, je me demande est-ce que ça va coller avec mon histoire, est-ce que ça peut se passer là. Et puis en plus je fais plein de découvertes qui elles-mêmes vont nourrir l'histoire, mais non seulement je me rends sur les lieux, mais je rencontre aussi les gens, c'est ça qui m'intéresse au premier chef. Et quand je dis rencontrer les gens, c'est pas, ça veut dire que je fais pas du tourisme. J'ai un roman qui se passe à Hong Kong, j'ai pas été au Pic, enfin si j'ai été au Pic aussi, mais j'ai pas été au Pic, ou à Kowloon, dans les lieux où tous les touristes se baladent. À ce sujet, je suis un fan de Michael Conley, hein, même si je lis pas que des polars et des romans policiers d'ailleurs.
Non, vous parlez des classiques tout le temps dans tous vos livres.
Bah, c'est-à-dire que les auteurs de romans policiers lisent trop de romans policiers, c'est de l'inceste en quelque sorte. Donc, enfin pas tous, hein, je caricature. Mais je lis beaucoup d'autres choses, mais je lis aussi des romans policiers, et par exemple Michael Conley, qui est un formidable auteur, qui connaît très bien Los Angeles, qui connaît très bien le LAPD, la police de Los Angeles, il a écrit un seul roman qui se passe à Hong Kong, et là on voit qu'il n'a pas fait le job, quoi, qu'il a dû y passer 24 heures, ça se passe dans les endroits les plus touristiques, il ne connaît pas la ville.
Vous avez rencontré les shérifs, et vous avez même confirmé que le cliché du donut est réel, en fait. Il y a vraiment des donuts dans les voitures des shérifs américains.
Ah oui, il y a le donut, il y a le fusil à pompe, là, enfin, je ne sais pas, entre les deux sièges. Il y a tout ce qu'on voit dans les films, en réalité. Et puis les patrolmen, alors c'était à Seattle. C'était pour l'écriture avant l'écriture d'Une putain d'histoire. Effectivement, j'ai rencontré aussi des shérifs là-bas, dans les îles San Juan. J'avais rencontré le patron du HIT, qui est un peu l'équivalent du VICAP que tous les amateurs, tous les fans du Silence des Agneaux connaissent. C'est ce service du FBI spécialisé dans les tueurs en série. Ben, il y a la même chose dans l'État de Washington. J'avais rencontré plein de policiers et de shérifs américains et des patrouilleurs. Je me suis même retrouvé au volant d'une voiture de patrouille dans les rues de Seattle. Alors elle était à l'arrêt et elle était garée le long du trottoir. On ne m'a pas laissé la conduire, il ne faut pas exagérer.
Vous figurez dans le top 10 des auteurs français les plus lus en France. Est-ce que ça vous ajoute de la pression à chaque fois que vous sortez un nouveau livre ?
Non. Quand j'écris, je ne pense pas ni à mes lecteurs, ni à la critique. Non, je suis dans mon monde, dans mon univers, avec mes personnages. C'est une espèce de bulle étanche. Vraiment, je ne me pose pas la question de comment le livre va être reçu. Et alors, je l'ai souvent dit, j'ai emprunté cette phrase à un cinéaste bien connu, je cuisine les plats que j'ai envie de manger. C'est-à-dire que je mets dans mes romans, parce que je suis d'abord lecteur avant d'être auteur, je mets dans mes romans tous les ingrédients que moi, en tant que lecteur, j'ai envie d'y trouver. Mais après, je me fais plaisir, en fait. Alors évidemment, je pense structure, je pense rebondissement, je pense cliffhanger, je pense aussi au discours que je tiens, à la thématique du livre. Alors, je suis pas Moravia, dont chaque roman était une sorte de démonstration d'une thèse qu'il a adoptée au départ, et tout le roman a été structuré autour de cette thèse. J'en suis pas à ce point-là, où Milan Kundera a fait ça aussi pas mal de fois. Non, mais néanmoins, oui, il y a toujours derrière une petite musique, un discours, en tout cas un point de vue, qui peut être le point de vue de Martin Servaz ou d'un autre personnage. Et ça aussi, ça fait partie de... ça structure le récit.
Il y a deux de vos confrères écrivains qui ont fait de vous, Bernard Minier, un personnage de fiction dans leur livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Ligue de l'Imaginaire qui s'appelait avant les Marmottes Exhibitionnistes? Et d'ailleurs, pourquoi ce premier titre?
Alors, à l'époque des Marmottes Exhibitionnistes, j'étais pas là. Hein, donc,
ah d'accord.
Moi, alors, je sais que c'est un défi qui s'était lancé comme ça au départ, parce qu'ils devaient, dans chacun de leurs livres, ils devaient placer ces deux mots, ce qui n'est pas évident. Alors, je ne sais pas si c'était séparément ou ensemble. Ensemble, c'est encore plus compliqué. Marmotte exhibitionniste, waouh. Mais et puis ensuite, quelqu'un a dit, je ne sais plus lequel, ils étaient quatre au départ. Il y avait Franck Tillier, il y avait Henri Leuvenbruck, il y avait Maxime Chatham, et puis il y avait Olivier Descos. Et puis quelqu'un a dit qu'il fallait quand même prendre les choses un peu au sérieux, quoi. On est des écrivains, on est des gens sérieux. Mince. Et donc, ils ont choisi la Ligue de l'Imaginaire. Moi, j'ai intégré la Ligue plus tard. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui l'ont intégré, des gens avec beaucoup de talent. Mais en fait, c'est un groupe d'auteurs, mais pas que d'auteurs, hein, il y a aussi d'autres artistes qui veulent promouvoir tout ce qui est littérature de genre, littérature de l'imaginaire, tous ces mauvais genres, quelque part. les faire connaître et aussi découvrir des nouveaux talents, les encourager, puisqu'il y a un prix de la Ligue de l'Imaginaire. C'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains et de parler de plein de choses. Et pas que d'argent, parce que Oscar Wilde disait que quand les banquiers dînent entre eux, ils parlent d'art, et quand les artistes dînent entre eux, ils parlent d'argent. Mais nous, on ne parle pas de fric, on parle de plein de choses.
Vous avez été inspecteur des douanes pendant 25 ans ?
Contrôleur, en fait. On m'a promu inspecteur une fois que j'ai été écrivain. Pas promu, j'ai jamais été. Je suis toujours pas inspecteur des douanes.
Hein. Donc vous avez failli l'être et vous êtes devenu.
Mais dans les articles de journaux, certains journalistes devaient estimer que contrôleur c'était pas assez, je sais pas.
Et vous faisiez en parallèle des concours de nouvelles, donc vous écriviez déjà pendant que vous exerciez ce métier.
Ah, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis en âge de lire et d'écrire. Dès que j'ai commencé à lire, ou presque. J'ai écrit des choses. Moi, je suis d'une génération où existait quelque chose qui s'appelait les aventures de Bob Mohan, qui commençait son devenu ensuite une chanson. Dès que j'ai commencé à lire des aventures de Bob Mohan, je reprenais le personnage et je faisais mes petites histoires que je passais à mes copains. Puis à 15 ans, j'ai écrit de la science-fiction parce que c'était l'âge d'or de la SF avec des auteurs comme K. Dick, Asimov, enfin plein d'autres, Silverberg, etc. Et puis à 20 ans, je lisais Nabokov, Thomas Bernhard, Kombrowicz. Et puis j'ai très vite compris que non, qu'il valait mieux que je fasse autre chose.
Donc vous avez toujours fait le pont, en tout cas dans vos goûts, entre la littérature populaire, qu'on appelle populaire, et la littérature classique.
Bien sûr, mais moi j'ai toujours lu les classiques et les contemporains aussi. Hein. Mais depuis quelques temps un peu moins les contemporains, parce que je relis plus que je ne lis finalement. Donc oui, j'ai toujours, il n'y a jamais eu de barrière. D'ailleurs je suis venu au polar, au genre du polar assez tard. Hein. Moi c'était pas du tout ma cam au départ. Je lisais plein de trucs, mais pas forcément des romans policiers. Glacé, c'est ma première tentative dans ce genre-là.
Vous aviez 50 ans ?
Ouais, j'avais 48 ans quand je l'ai écrit, j'ai 50 ans quand je le publie.
Succès immédiat.
Et c'est ça. On pourrait faire une émission sur une autre vie est possible à 50 ans, quoi. Mais je ne m'y attendais pas du tout, parce que ce n'était pas une tentative désespérée, mais enfin bon. On connaît des dizaines d'histoires d'auteurs célèbres qui ont reçu des piles de lettres de refus et qui en ont tapissé leur salle de bain ou leur cuisine.
À Marcel Proust, auto-édition.
Oui, en plus. Oui.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Capitaine Servaz ?
Ouais.
Capitaine Ziegler, je commande la brigade de recherche de Saint-Martin.
Comment il a pu arriver ici, ce cadassin ?
Je pense que l'un de vos détenus est mêlé à cette affaire.
Et il aurait fait comment ?
On a un cheveu.
De qui ?
De Julian Hirtman.
C'était le parrain de ma fille.
Il n'est pas question que tu t'occupes d'Hirtman.
Personne ne le connaît mieux que moi.
Je vous présente le docteur Diane Berg, notre nouvelle psychiatre.
Bonjour, monsieur Hirtman. Bon, j'ai du mal à croire qu'il tire les ficelles depuis sa cellule.
Il a toujours une longueur d'avance.
Il est si effrayant.
Ça fait 10 ans qu'il est enfermé. Il sortira jamais.
Pourquoi il s'en prendrait à un animal alors que son truc à lui c'est de femme ?
Ne le laissez pas vous manipuler.
2011, première apparition dans le roman Glacé de vous, Bernard Minier, du commandant Servaz, un policier de Toulouse cultivé ayant un faible pour malheur, qui est confronté à une série de crimes épouvantables au cœur de l'hiver des Pyrénées. Ça a été adapté en série sur M6, c'est ce qu'on vient d'entendre. L'idée vous est venue d'un reportage sur France 3 sur une usine hydroélectrique à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Et le point de départ de la vallée, j'en cite deux comme ça, c'était un éboulement de montagne sur une route. Est-ce que c'est le réel qui vous inspire le plus ?
Oui, complètement. Oui, absolument. Moi, je me considère comme un écrivain réaliste et je pars toujours du réel pour aller vers la fiction. Donc, c'est souvent des anecdotes comme ça. Effectivement, un reportage, c'était l'émission Faut pas rêver, je crois, à l'époque, où je découvre cet endroit absolument extraordinaire qui est une usine à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes, mais creusée sous la montagne. Il faut prendre une espèce de monte-charge dans un puits de 60. Alors déjà, il faut prendre un téléphérique, un télécabine. Parce que les ouvriers montent là-haut chaque hiver dans un télécabine, puis ils descendent dans ce puits de 70 mètres où ils empruntent des galeries de plusieurs centaines de mètres à bord de petits véhicules pour rejoindre l'usine qui est souterraine. Et ensuite, une fois qu'ils sont passés, les galeries sont fermées et l'eau des conduites les envahit puisque c'est une usine hydroélectrique. Et c'est une usine qui datait de 1929. Donc, c'est un truc absolument incroyable. C'est presque un décor de science-fiction. Et c'est en voyant ce reportage, je me suis dit, mince, ça ferait un décor extraordinaire pour une scène d'ouverture. Et pour la vallée, effectivement, il y a cet éboulement d'une route qui conduit à Principauté d'Andorre. Et c'est une route où il passe 3000 véhicules par jour. C'est quasiment l'artère qui conduit le sang jusqu'aux centres commerciaux de l'Andorre. Et la montagne s'effondre dessus et il faut 15 jours pour la dégager. Et je me trouve ce laps de temps extrêmement long. Et donc j'imagine à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si une route beaucoup moins importante, desservant une ville infiniment, elle aussi moins essentielle, était coupée et avec sa population confinée, coupée du monde, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, les parents qui ne peuvent plus aller travailler. Évidemment, je place un tueur en
évidemment.
Son sein. Oui, là, ça va de soi. Et en même temps, j'écris ça juste avant le premier confinement, quoi. C'est ça qui est...
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre héros, le commandant Servaz, parce que vous le montrez souvent, assailli par le doute, parfois même découragé. Et c'est un homme qui, plus jeune, aurait voulu devenir écrivain. Est-ce que c'est votre double inversé ?
Alors, mon double, je sais pas. Oui, il y a quelque chose de moi chez Servaz, mais je suis pas Flaubert disant Madame Bovary, c'est moi. Mais il y a des aspects de moi. Déjà, s'il est un peu technophobe, il est né au siècle précédent, il a beaucoup de mal avec celui-ci. Ça me ressemble assez. Après, on a aussi énormément de différences. Hein. Je l'ai souvent dit, un personnage de fiction, on ne fait jamais. Alors, c'est en plus l'auteur de Saint-Pierre de Luz, c'est pas une autofiction, donc c'est moi sans être moi. Double inversé, je sais pas. Oui, bah, des fois, il y a des points de vue sur le monde, des points de vue sur la société, alors assez brefs, mais que je place dans sa bouche ou dans sa tête. D'autres fois, c'est juste son point de vue à lui, le point de vue du personnage.
Il a un adjoint plus jeune que lui, espérant Dieu, plus adapté au siècle. Est-ce que vous, Bernard Minier, vous avez aussi quelqu'un qui joue ce rôle dans votre vie ?
Oui, bien sûr, heureusement. Bah, j'ai des gens plus jeunes autour de moi, donc ça m'aide un peu, quoi. J'ai des amis qui n'ont pas forcément tous mon âge.
Et vous êtes curieux de tout ?
Et je suis très curieux, oui. Je suis curieux d'apprendre, je m'intéresse à énormément de choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé un deuxième personnage qui est Lucia Guerrero, qui apparaît dans Les Effacés dans Lucia, parce que je voulais changer de point de vue autant le faire d'une manière radicale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un homme, c'est une femme, elle est espagnole. C'est une nouvelle génération, plus jeune par rapport à Servaz, et tout ça me permet de dire des choses différentes, quelque part. Mais alors, pour le coup, quand on est un homme comme moi, qui a mon âge et qui est français, créer un personnage de policière espagnole qui a une quarantaine d'années, c'est quand même un sacré défi. Je veux dire, on part pas sans filet, donc évidemment j'avais un modèle pour le faire, parce que, comme je l'ai dit, je pars toujours du réel pour aller vers la fiction.
Et il y a beaucoup de femmes, même dans les aventures
c'est
de
vrai,
commandant Servaz.
Oui, absolument.
Page 18 du roman H, signé Bernard Minier. Le commandant Servaz écoute la symphonie numéro 5 en do dièse mineur de Gustave Mahler, compositeur pour lequel il partage une passion avec l'ancien procureur de Genève qu'il poursuit inlassablement, le tueur en série, Julian Hirtman. Hirtman, c'est un peu l'équivalent du professeur Moriarty pour Sherlock Holmes.
Ah bah c'est le grand méchant quand même. J'aime pas le mot héros parce que je considère pas que Servaz est un héros ou même anti-héros. C'est toutes ces définitions, on enferme un peu trop les personnages. Justement, les personnages, pour qu'ils soient vrais, pour qu'ils existent, il faut qu'ils soient complexes, qu'ils aient de l'épaisseur. Et donc les réduire à une étiquette, c'est gênant. Néanmoins, il n'y a pas de héros sans un grand méchant, sans un grand adversaire. Et Julian Hirtman incarne tout ça. Et puis c'est son double inversé. Oui, la formule est juste puisque ils ont beaucoup de choses en commun, et en particulier la musique de Gustave Mahler.
Alors, ce qui est assez fort, c'est que vous arrivez à rendre à peu près tout le monde effrayant. Parce que je pense au début, quand le commandant Servaz est contacté par un écrivain, Sachs, qui en sait un peu trop sur lui, notamment sur sa compagne, qui est revenue assez changée d'Afrique, je n'en dis pas plus, et qui lui propose un rendez-vous en lui disant « J'en sais plus sur le tueur en série, venez me voir ». Et au début, ça ennuie profondément Servaz, parce qu'il va avoir quand même pas mal de rivaux sur l'enquête.
Eh oui, mais c'est ça qui m'intéressait. Ce Emmanuel Sachs, c'est un écrivain de ce qu'on appelle la littérature du réel. C'est-à-dire cette littérature, c'est peut-être pas par hasard si j'ai choisi le prénom d'Emmanuel d'ailleurs. Cette littérature qui est, qui est une littérature hybride entre la réalité et la fiction. C'est ses romans, ses témoignages, ses enquêtes.
C'est à Carrère.
Par exemple, il y a Ariane Chemin, il y en a plein d'autres. Hein. Même le André Gide de Chronique de la Cour d'Assises, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc c'est cette littérature. Yvan Jablonka appelait ça un troisième continent littéraire entre l'essai et la fiction. Donc c'est cette littérature qui est très ancrée dans le réel, parce qu'en fait c'est ça le sujet du livre. La fiction et le réel, où commence l'un, où s'arrête l'autre, comment on distingue le vrai du faux dans le monde actuel.
Ça vous obsède. Vous citez d'ailleurs des journaux, j'ai vérifié évidemment, il y a le tabloïd polonais Fact, qui existent véritablement. Vous citez vraiment des choses qui existent.
Ah oui, j'aime bien abolir cette frontière entre la réalité et la fiction et qu'à un moment donné, mon lecteur ne sache plus trop si ce que je raconte a vraiment existé ou pas. Parce que, du reste, on parlait d'autres enquêteurs que Servaz. Il y a ces...
Web Sleuther, ce club
des inénarrables enquêteurs qui sont des internautes fans de true crime, puisque c'est ça aussi le sujet, et qui, au début du livre, racontent des affaires qui sont réelles, pour le coup. Des affaires incroyables, mais réelles. Et oui, c'est l'idée de mêler la fiction, le réel. Par exemple, il y a une formule, moi, qui me dérange profondément, c'est ce qu'on appelle docu-fiction. C'est des documentaires, donc on parle de personne réelle, on parle de crime réel, et puis on ne s'interdit pas d'inoculer une certaine dose de fiction, c'est qu'en fait, on va faire dire à des personnes réelles, on va leur faire dire ou leur faire faire des choses qu'elles n'ont sans doute jamais dites ou jamais faites. Moi, je trouve ça extrêmement problématique.
D'ailleurs, vous mettez un avertissement au début de H en disant que ça paraît inspiré d'une célèbre affaire, mais que c'en est détaché.
Et que ça reste de la fiction. Moi, je suis un auteur de fiction et je n'ai pas traversé le miroir, quoi. Je sais exactement où la réalité s'arrête, où la fiction commence.
Bernard Minier, il y a quelque chose qui frappe quand on vous lit, que ce soit vos nouvelles ou vos romans, c'est que vous semblez, en tout cas c'est mon impression, vous amuser dans l'écriture. Vous montrez par exemple dans H, où il y a quand même des choses assez graves ou sanglantes qui se passent, un exemple de texte en train de s'écrire. On parlait d'Emmanuel Sachs, et c'est ce paragraphe. « Trop d'épithètes », se dit-il en revenant en arrière. Il supprima vertigineux, se relut, pas si mal. Avec un peu de travail, il pourrait peut-être élever ce fragment de pur égotisme à des hauteurs que ses admirateurs ne manqueraient pas de saluer. Vous vous amusez quand vous écrivez ?
Ah ben là oui, c'est quand j'écris ça, oui, parce que je pense à plein d'auteurs qui doivent faire la même chose. Ah oui, là c'est une mise en abîme, je me regarde écrire, pour le coup on fait ça en miroir. Alors le danger, c'est qu'il ne faut pas faire ça trop souvent, parce que sinon le lecteur il sort de ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire on lui fait une proposition, on le plonge dans un univers fictif, il commence à éprouver de l'empathie ou de la sympathie pour les personnages, il s'embarque dans l'histoire. Si on lui sert un truc comme ça trop souvent, il va sortir de l'histoire, donc il faut faire attention.
Vous disiez tout à l'heure que vous intéressiez à beaucoup de choses, notamment aux enjeux de l'époque, et j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage qui se trouve page 163 de votre roman H, justement sur le narcissisme et l'individualisme qui règnent à notre époque.
Emmanuel se dit que le tueur en série est peut-être le stade ultime d'une société chaque jour plus customisée, où chacun exige que ce soit la société qui s'adapte à lui ou elle, et non lui ou elle à la société. Je veux que ma singularité, ma différence, ma religion, mon originalité, ma bizarrerie, pour minoritaire qu'elle soit, soit imposée à la majorité. Je veux que mon moi soit sacré, institutionnalisé, reconnu, intouchable, au nom de mon égoïsme tout-puissant. Si le tueur en série est devenu si populaire, si mainstream, se dit Emmanuel, c'est parce qu'il est le degré ultime du narcissisme ambiant, un cliché au sein d'une société qui est elle-même devenue un cliché, le symbole d'une société où tout le monde se surestime. Il puise son oxygène dans l'air raréfié de l'individualisme. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Ne dites jamais ce que vous pensez. Comme le tueur en série, devenez invisible. Soyez mainstream. Et méfiez-vous de ceux qui prônent la tolérance. ce sont les plus intolérants.
La page d'avant, il pense ceci. Il y avait trois sortes d'écrivains, les poètes, les romanciers et les reporters. Vous appartenez à...
Ah, moi, je suis romancier et pas autre chose. Oui, c'est une phrase de Norman Mailer, en fait. Hein, d'ailleurs, c'est dit dans le livre. Sur les trois catégories, alors les poètes, ce sont les gens ailés, les gens inspirés. Les romanciers, c'est les forçats du verbe, quoi. C'est ceux qui descendent dans la mine. Et puis les journalistes, pour Norman Mailer, c'est un peu les bourgeois qui... Enfin, voilà, ils sont plus dilettantes. Moi, je suis romancier à plus d'un titre parce que le romancier, c'est l'antidote aussi à toutes les tentations conformisme. Le roman, c'est la volonté de comprendre avant de juger, de rendre compte du caractère multiforme et contradictoire du réel. Je l'ai dit plus d'une fois, l'intellectuel montre ou croit montrer la voie de la raison, et le romancier en constate les limites. Et puis l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité, là aussi c'est Kundera qui a dit ça, et c'est la vérité éternelle du roman depuis le premier grand roman moderne qui est Don Quichotte. Quand Don Quichotte sort de sa tour, où il croit tout savoir, il se rend compte qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a mille vérités. Et c'est ça que le roman enseigne. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on en a de plus en plus de besoin à l'heure des vérités uniques et des jugements à l'emporte-pièce.
Alors ça, justement, la vérité, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Bernard Minier, on parle avec vous de votre roman H. J'ai dit que je voulais revenir justement sur la vérité, et à un moment vous décrivez l'ordinateur d'un journaliste sur lequel on voit Einstein tirant la langue avec cette phrase « Rien n'est plus proche du vrai que le faux ». Dans votre recueil de nouvelles « Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles » dont on va parler tout à l'heure, vous faites référence à plusieurs reprises à Steven Pinker. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, puisque je pense que c'est lié?
Oui, tout à fait. Alors Steven Pinker, c'est un professeur de Harvard, hein, de psychologie et de neuropsychologie, qui a publié plusieurs ouvrages, dans un qui s'appelle, c'est pas l'esprit des lumières, mais il y a le mot lumière dedans, et puis un autre qui s'appelle la rationalité. C'est quelqu'un qui nous invite à revenir au rationnel. On est dans un monde où l'esprit critique a peut-être tendance à reculer, en tout cas c'est mon point de vue. Il faut dire que l'esprit critique, il a surgi à un moment où quelque part, pour certains individus, la pensée magique et la superstition et les croyances sacrées protégées par le tabou commençaient à devenir douteuses. Il a surgi et il a soumis toutes ces vérités religieuses qui jusqu'alors étaient les seules admises, il les a soumis à l'analyse rationnelle, il les a confrontés à l'expérience pratique. Et à partir de là, on a eu un développement extraordinaire des sciences, des arts, des techniques. Et en somme, les idées, les vérités de la science scientifique ont fait reculer les dogmes religieux, la force brute, et ont lancé les bases d'une culture démocratique où l'individu est souverain, où l'individu juge par lui-même et n'est plus soumis à un dogme, à une doctrine, à une religion, à un chef. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mouvement-là est en recul, que l'esprit critique, certains voudraient, en tout cas pas tout le monde, mais certains voudraient le faire reculer, qu'il y a aussi de plus en plus de tentations de revenir aux tabous anciens qui rendraient de nouveau les croyances religieuses intouchables.
Quels sont-ils, ces tabous anciens ?
Hors de portée de la critique.
Quels sont ces tabous ?
Par exemple, tous les mots qui finissent par phobie, si vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'est une façon de christianophobie, judéophobie, islamophobie, c'est une façon de refuser qu'on puisse critiquer la religion. Or, il ne faut pas confondre racisme et islamophobie, c'est deux choses très différentes. Moi je considère qu'on peut tout critiquer dans ce que Karl Popper a appelé une société ouverte. C'est-à-dire une société ouverte, une société où, je le répète, les individus sont libres de juger, d'examiner par eux-mêmes, d'analyser,
argumenter,
et de rejeter tout ce qui leur semble faux et absurde et abusif.
Sans inciter à la haine, en réfléchissant avec des arguments.
Voilà, exactement.
Je reviens un tout petit peu à la fiction et au réel. Vous enquêtez, comme un détective, pour écrire vos livres. Et, par exemple, dans H, vous mettez en scène un certain Damien Dix, sachant que dans les nouvelles, il y a un certain Damien Diez, qui est 10 en espagnol. Et c'est des présentateurs, tous les deux, des stars de talk show.
Oui.
Ils ont un rapport ?
Ah bah oui, oui, il y en a un qui procède de l'autre. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes, mais ils se ressemblent quand même beaucoup.
Et c'est Damien Hirst et Otto Dix que vous avez mélangé pour le nom ?
C'est un peu ça, ouais, peut-être. Oui, oui, je suis là. J'ai la peinture auto-expressionniste allemande, je prends. Non, en fait, j'avais eu l'idée de ce personnage avec cette nouvelle qui s'appelle Talk Show, qui se trouve dans Les Chats, le recueil Les Chats. J'avais eu de ce personnage qui est absolument odieux, qui fait de la télé poubelle, on peut l'appeler comme ça. Alors, son épouse dit télé excrément. C'est plus joli. Et puis, je me suis dit, ce personnage, il est trop sympa, façon de parler. Il est trop jubilatoire, il est trop rigolo. Je vais m'en servir dans H. C'est dommage de ne l'utiliser que dans une nouvelle. Et donc, il revient sous une autre forme, légèrement différente, mais en même temps, pas très loin. C'est la société du spectacle, en fait, évidemment. C'est l'ouvrage de Neil Postman, le sociologue, se distraire en mourir, quoi. C'est quand tout est transformé en spectacle, y compris la science, y compris les idées, y compris le sport, y compris la politique.
Tu as trouvé le dernier ticket d'or, Wonka ? Dans ma boutique !
Écoute, je te l'achète. Je te donnerai $50 et un vélo tout neuf.
Vous êtes fou ? Je lui offre $500 pour ce ticket. Voulez-vous me vendre votre ticket pour $500, jeune homme ?
Ça suffit. Laissez ce gosse tranquille. Écoute, ne laisse personne te le prendre. Apporte-le vite chez toi. Tu m'entends ?
Je vous remercie.
Extrait du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, l'adaptation du livre de Roald Dahl. Sur les tickets d'or, Bernard Minier, vous avez fait comme dans Charlie et la chocolaterie, vous avez glissé 5 tickets d'or dans 5 exemplaires de votre roman H.
Oui, c'est ça. Et en fait, j'étais dans un entrepôt au sud de Paris, un endroit gigantesque avec des Himalayas de H. Il y en avait partout. Et on m'a demandé de glisser 5 tickets d'or. Et j'ai accepté fort volontiers. Sauf que, en fait, moi, j'ai jamais ni lu ni vu Charlie et la chocolaterie. J'ai honte, mais je reconnais maintenant. Et un jour, un journaliste m'a dit « Alors, vous jouez les Willy Wonka ?» Et j'ai dit « Willy qui ?» Et j'ai été complètement perdu. Maintenant, je sais exactement ce que j'ai fait dans cet entrepôt, mais à l'époque, je l'ignorais.
Bernard Minier, vous avez publié il y a quelques mois un recueil de nouvelles horrifiques, étranges ou fantastiques intitulé « Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles » chez Ixo Pocket. Et dans la préface, vous confessez, enfin ce n'est pas une confession, que vous écoutiez « Everything is Alive » de Slow Dive. Là, on a choisi le morceau « Alive ». Il y a beaucoup de musique dans votre œuvre, il y a même des nouvelles où vous précisez l'accompagnement musical.
Ben oui, je suis assez partageur quand j'écris, donc j'aime bien partager mes engouements, mes passions. Alors des fois, ça peut être des engouements très temporaires. Hein. Par exemple, les morceaux musicaux, je vais les écouter en boucle 77 fois, et puis je vais les glisser dans un texte, et puis je vais les oublier. Quoi. Mais ouais, non, moi j'aime bien Slow Dive. En fait, j'ai commencé à faire ça avec Glacé. C'est-à-dire que je me suis dit comment caractériser les personnages d'une manière un peu originale et j'ai pensé à leur attribuer à chacun un style de musique. Alors, on l'a dit, Servaz, c'est Gustav Mahler. Pourquoi Mahler ? Parce qu'en fait, Mahler, c'est un nom que tout le monde connaît, mais il y a quand même très très peu de gens qui écoutent sa musique. Vincent Espérandieu, c'est le rock indé. Donc, ça me permet aussi de passer des trucs comme ça, Slow Dive, etc. Enfin, des choses. Et puis, il y a aussi Samira Chung avec le métal.
Cold War Kids.
Ouais, c'est ça. Et plein de groupes rock indé contemporains. Je continue, évidemment, à glisser dans mes textes. Et ça me permettait de caractériser chaque personnage d'une manière. Il faut pas expliquer quand on parle d'un personnage, il faut montrer. Et en même temps, j'adore partager, mais pas seulement mes musiques. On parlait de Steven Pinker tout à l'heure. Quand je lis Rationalité de Steven Pinker, qui est un ouvrage que je recommande à tout le monde, ben j'ai écrit derrière une nouvelle qui s'appelle Rationalité, où on a un légiste qui est un être extrêmement rationnel, cartésien, et qui va être confronté à des phénomènes qui ne le sont pas du tout. Voilà, je partage, et ça me permet indirectement d'orienter, d'aiguiller mes lecteurs, peut-être vers d'autres lectures, vers d'autres savoirs, vers d'autres objets de curiosité. Je sais que très souvent, ils vont sur Internet et ils creusent un peu, quoi.
Alors justement, à la fin de Lucia, vous aviez dressé une liste de 150 films d'horreur, puisque vous aviez vu énormément de films d'horreur pour créer l'un des personnages. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a des nouvelles réellement horrifiques. Je voulais savoir, sans dévoiler pourquoi, parce que moi ça m'y a fait penser, est-ce que vous avez lu Crash de Ballard, ou vu son adaptation par Cronenberg, ou vu Hostel d'Eli Roth, qui est insoutenable?
Les deux. Alors Hostel, je crois qu'il est cité dans la liste d'ailleurs. Hostel est cité dans la liste. Crash, je l'ai pas mis parce que pour moi c'est pas complètement un film d'horreur.
Non, pas complètement.
C'est Cronenberg.
Non, mais il y a l'excitation dans le tourisme macabre, ça m'a un peu fait penser à ça, l'excitation de la torture.
Complètement. Et j'ai lu Crash évidemment de Ballard, qui est un texte incroyable, qui est un texte fabuleux. C'est un des meilleurs de Ballard d'ailleurs pour moi, de mon point de vue, avec ces espèces de paraphilies bien tordues sur la mécanique quand elle est accidentée. J'avais lu Ballard. Moi, je me rappelle de la préface aussi qu'avait écrit Ballard dans Crash, où il parlait de ce technomonde dans lequel on vit, plein de lueurs, d'illusions et de mensonges. Et ça rejoint un peu ce qui m'arrive de dire dans mes récits.
Je crois que j'ai fait une nouvelle. C'était un peu un cauchemar qui s'appelle La Bibliothèque de Babel. L'idée de la bibliothèque, comment finit, non? Et cela n'est pas seulement une petite spéculation mathématique, mais c'est surtout la façon dont je la sentais, dont je la subissais dans le temps. Cette petite bibliothèque où j'étais, aux alentours de Buenos Aires, au sud-ouest de Buenos Aires, je sentais cela comme quelque chose d'infini, de pressant et d'haïssable aussi, non? Mais quand même, à cette bibliothèque-là, j'ai eu l'occasion de lire toute l'œuvre de Claudel, toute l'œuvre de Léon Blois. Cela s'est trouvé dans cette bibliothèque, dans un quartier ouvrier. J'étais le premier, le dernier lecteur de ces textes-là en français.
C'est Borges qu'on entend en 77 sur France Culture. Bernard Minier, on parle de votre recueil de nouvelles Les Chats, et dedans il y a une nouvelle qui s'appelle À un détail près, sur un concours de nouvelles, qui est une nouvelle un peu borgésienne, tout de même, on peut le dire, je pense. La chute est amusante, parce que tout n'est pas horrifique dans ce recueil. Est-ce que ça a été une inspiration, Borges?
Oui, j'ai beaucoup lu Borges, et j'ai commencé à le lire d'ailleurs en espagnol quand j'étais adolescent, que j'allais en Espagne et que j'essayais d'apprivoiser la langue, parce que j'avais pas appris à l'école. Et donc je lisais des ouvrages, je lisais Ortega y Gasset, qui est un philosophe assez intéressant, et je lisais Borges, et pas seulement les ficciones ou la Lef, mais aussi il y avait des petits bouquins qui paraissaient en Espagne qui s'appelaient Borges Oral. Et c'était des leçons sur le livre, sur l'immortalité, qui a ensuite été traduite en français, mais je les lisais en espagnol. Et c'était court, comme très souvent chez Borges, il a un art de la synthèse. Mais oui, mais bien sûr, j'ai lu Borges, c'est fantastique dans tous les sens du terme.
Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe vive d'angolo balle qui. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore.
C'est le standard de ce soir, Vianello Eduardo, Guarda come dondolo dans la 20e heure sur France Inter.
What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York?
Bernard Mignon, vous a demandé un choix musical, vous nous en avez donné trois, ils sont tous du groupe The National, et là on a choisi Eucalyptus.
Ouais.
Vous êtes un peu obsessionnel ?
Complètement. Quand je commence à écouter un groupe, je peux l'écouter en boucle pendant des jours et des jours, voire même un seul morceau. C'est assez insupportable pour les gens qui sont autour de vous, je dois dire. On me l'a souvent fait remarquer. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute beaucoup The National. Alors, c'est pas la première fois, hein, mais on y revient, quoi. Ouais, c'est un groupe merveilleux. Voilà, c'est... Et puis, il y a les paroles aussi, les lyrics qui sont assez formidables. Ce refrain qui dit You should take it. Mais je passe d'une passion et d'un engouement à l'autre, et je trouve qu'il y a deux choses qu'il faut faire dans la vie. Il faut être passionné, être enthousiaste, et de l'autre côté, il faut apprendre. Et je pense que si vous apprenez, si vous êtes enthousiaste, vous resterez vivant longtemps.
Ouais, ça va ensemble souvent.
Bien sûr.
J'aimerais qu'on commente un tout petit peu votre biographie par vous-même. Ça commence en 1960, Fiat Lux, qui veut dire que la lumière soit. C'est la première parole de Dieu, la naissance donc. Mais c'est aussi le nom de l'agence de détective dans Nestor Burma de Léo Mallet.
Ouais.
C'est fait exprès ?
Un peu.
Mais moi, je suis détective aussi, vous savez.
Eh ben, je vois ça, mais vous avez été chercher ça où ?
C'est parce partout.
Mais oui, je sais. Ouais, je sais d'où vient cette biographie. Mais c'était, oui, je voulais faire des petits clins d'œil.
Est-ce que vous êtes encore mélancolique ? Je parle par rapport à votre enfance à Montrégeau. Vous avez grandi face à des paysages que vous trouviez à la fois beaux et tristes.
Et c'est vrai, et il pleuvait souvent, il pleuvait beaucoup. Et j'aime la pluie, bizarrement, mais en même temps, ça vous forge le caractère d'une manière assez étrange. Oui, je suis toujours mélancolique. Quelqu'un a dit, mais je ne me rappelle plus qui, qu'on ne guérit jamais de son enfance. Et je pense que c'est vrai, en fait, on y retourne toujours. D'ailleurs, dans quelques années, je vais y retourner carrément, puisqu'en général, quand on commence à perdre un peu la boule, on redevient enfant. Donc, la boucle sera bouclée. Oui, je pense que l'enfance, on n'en guérit pas.
Vous avez peur de ça de...
Non, pas du tout, au contraire.
Perdre votre lucidité.
J'aimerais bien garder mes neurones actifs le plus longtemps possible. Surtout dans mon métier, ça peut être utile. Mais cette part d'enfance, il faut l'exploiter, bien entendu. Même si elle laisse des cicatrices.
Ce qui frappe quand on lit votre autobiographie, c'est qu'elle n'est constituée presque que de vos éblouissements de lecture. Et évidemment, j'en avais noté une quarantaine, mais j'ai absolument pas le temps d'en parler. Donc, dernière question, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Bernard Mignet ?
Ah, waouh ! Alors, en ce moment, je lis un livre de Mario Vargas Llosa, puisqu'il nous a quitté il y a un peu longtemps. Un des derniers qu'il a écrit, ça s'appelle « L'appel de la tribu ». Il y a plein de réflexions intéressantes, et en même temps, il faut le prendre un peu avec des pincettes. Je dis ça parce que ça commence par un éloge sur plusieurs pages de Margaret Thatcher. Donc, il faut quand même y aller doucement. Mais c'est passionnant. Je lis ça et puis je lis aussi... je relis Le Conformiste de Moravia. Parce qu'en fait, je relis souvent. Et Calvino disait que les classiques sont des livres qui n'ont jamais fini de dire ce qu'ils ont à dire. Et c'est pour ça que je les relis.
Vous êtes une bibliothèque de Babel. Merci beaucoup, Bernard Mignet.
Mais je vous en prie. Merci.
Votre roman H est paru aux éditions XO, tout comme le recueil de nouvelles Les Chats et 14 histoires mystérieuses. mystérieuse, diabolique, cruelle, la série glacée adaptée de votre roman est visible sur les plateformes de streaming. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Benjamin Wagon.